Bonjour à toutes et à tous, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, depuis le début de la semaine, Vivre ici est consacré aux Journées européennes de l'archéologie. Lancée pour la première année par la communauté de communes Vallée de l'Hérault à l'ancienne abbaye d'Agnane, qui se tiendra le week-end du 19 et 20 juin. Marie Christiani, chargée du patrimoine archéologique de la CCVH, est encore avec nous aujourd'hui pour parler de l'époque de la Révolution, la fabrique de coton et la maison d'arrêt, après nous avoir parlé de l'âge d'or et de la reconstruction de l'API d'Agnane dans les épisodes précédents. Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Alors, 1789, c'est la Révolution française. Que devient l'abbaye d'Agnane ?
Alors, l'abbaye d'Agnane, comme beaucoup de biens religieux, est confisquée par le gouvernement révolutionnaire. Et on divise le domaine, parce que je rappelle que donc, l'abbaye, ce n'était pas seulement quelques bâtiments, mais c'était un immense domaine avec beaucoup de terres. Et donc, on divise ce domaine en plusieurs lots pour les revendre. Donc, pourquoi est-ce qu'on divise le domaine ? C'est parce que on ne veut pas reconstituer des seigneuries. Hein, la Révolution, c'est le pouvoir au peuple, et donc les seigneurs, tout ça, c'est terminé. Mais bon, c'était sans compter sur l'ingéniosité de quelques personnages qui se sont arrangés pour racheter petit à petit quasiment la totalité du domaine.
Et alors, si le rachat par une même personne n'est pas autorisé, comment a-t-on pu reconstituer le domaine de l'abbaye finalement ?
Alors, au tout départ, nous avons un personnage qui s'appelle Cosse, qui achète une partie des bâtiments, donc le cloître, pour résumer, et l'église, donc l'abbatiale. Il revend très vite l'abbatiale à la commune, qui va en faire son église principale, donc l'église paroissiale, l'église du village. Et puis, rapidement, il revend le reste des bâtiments à un dénommé Farel, qui est un négociant montpelliérain. Et donc, Farel achète cette partie des bâtiments en 1793. Et à partir de là, il va entreprendre de racheter petit à petit les différentes parties du domaine qui ont été dispersées lors de la vente des biens nationaux. Et pour réussir donc à racheter tous ces éléments, eh bien, il se sert de prête-noms pour réaliser ses nombreux achats, donc des jardins, des prés, des bâtiments qui sont disséminés un petit peu sur tout le territoire.
Et alors, que fait Farel ?
Alors Farel, comme je disais, c'est un négociant, mais c'est également un industriel qui possède différentes filatures à Montpellier notamment. Et donc les bâtiments de l'abbaye vont être reconvertis en usine, en filature de coton.
Et alors apparemment la famille Farel est liée à la famille d'un célèbre peintre montpelliérain.
Exactement. Alors je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Basile, qui était un jeune peintre impressionniste, enfin du tout début de l'impressionnisme, qui est décédé assez jeune et qui n'est donc pas aussi connu que Monet, Manet et autres Renoir. Eh bien, il se trouve que ce jeune peintre, Frédéric Basile, était le neveu par alliance du dernier Farel, du dernier propriétaire de l'usine qui était installée dans l'ancienne abbaye d'Agnane. Comme quoi, le monde est petit.
Et oui. Et alors, en fait, c'est tout le développement de l'ère un peu industrielle et économique au 19e siècle, au sortir de la Révolution. Mais qu'est-ce que... On parle aussi d'élite locale. Donc, l'entreprise Farel fait partie d'une élite locale.
Oui, bien sûr, parce que c'est une élite économique, en fait, qui possède des terrains, qui possède donc l'abbaye d'Agnane, mais également l'abbaye de Gélonne, donc de Saint-Guilhem, qui est également transformée en filature. Donc ce sont pas des aristocrates bien sûr, mais donc des bourgeois qui sont fortunés et qui font fortune dans le commerce du tissu. Et donc à l'abbaye d'Agnane et à l'abbaye de Saint-Guilhem, on file le coton pour en faire du fil justement, qui va être envoyé dans les usines de Montpellier où là il va être tissé en étoffe. C'est comme ça que fonctionne...
Et après, ces étoffes sont renvoyées,
Et après,
dissémées.
Ces étoffes sont vendues à différents partenaires. Mais donc, il faut garder à l'esprit que c'est une famille puissante est très fortuné et qui a aussi participé à moderniser un peu les techniques de la filature, parce que lorsqu'il s'installe à Agnan, il demande à la commune de détourner une partie de l'eau de la source de Saint-Rome pour faire fonctionner les machines avec la force hydraulique, alors qu'auparavant on fait fonctionner les machines avec la force animale. Donc il y a aussi une évolution là, des techniques de production au début du 19e siècle.
Oui, donc il y a un développement, une croissance qui se crée grâce à cette famille Farrell.
Tout à fait. Qui emploie d'ailleurs un grand nombre d'ouvriers qui étaient forcément originaire des alentours. Donc on sait qu'il y a eu jusqu'à 250 ouvriers, ou devrais-je dire ouvrières, qui travaillaient dans l'abbaye, parce qu'on sait que dans un premier temps, ce sont principalement des enfants et des jeunes femmes qui travaillent dans la filature d'Agnan, qui étaient vraisemblablement logés sur place, parce que je rappelle qu'on est donc dans une ancienne abbaye où il y a les anciennes cellules des moines, donc on peut loger du monde, et c'est un lieu qui est adapté à la vie en communauté. Donc voilà, jusque dans les années 40, ce sont ces femmes et ces enfants qui constituent la majeure partie de la main-d'œuvre.
Et on a une idée du nombre d'ouvriers qui travaillaient dans cette entreprise en 1840, hein, c'est à peu près.
On sait qu'il y a eu jusqu'à 250 ouvriers. Après, ça a varié dans le temps. J'ai trouvé dans d'autres sources plutôt 100 ou 150 personnes. Mais donc voilà, c'est
variable. Quelles sont vos sources justement pour trouver toutes ces informations?
Alors, ce sont des articles universitaires qui eux-mêmes trouvent leurs sources dans des documents d'archives. Donc moi, personnellement, je me suis inspirée d'un article de Geneviève Durand qui a fait un dépouillement en fait, des archives pour retrouver les documents officiels comme les actes de vente, etc., qui permettent en fait, de retracer toute l'histoire que je vous raconte aujourd'hui.
Et alors, donc, le propriétaire Farrell, qu'est-ce qui se passe après
Eh bien,
il lui arrive quelques péripéties.
Et oui, avec à l'abbaye d'Agnan, on a l'habitude des péripéties. Donc, notre ami Farrell finit, pour l'instant pas. Voilà, il fait pas encore faillite, mais l'usine fonctionne plus très bien. Et puis, on sait qu'aussi dans les années 1840-45, le travail des enfants est interdit. Donc, on imagine qu'il a un problème de main d'œuvre. À côté de ça, l'État et donc la prison de Montpellier, et voilà, il y a trop de prisonniers à la prison de Montpellier. Donc en fait, Farrell trouve un compromis avec l'État et on décide de faire de l'ancienne abbaye / filature de coton une maison d'arrêt et de faire venir des prisonniers qui vont vivre et travailler dans la filature de coton. Donc notre ami Farrell se retrouve avec une main-d'œuvre très bon marché et voilà, ça lui permet de surmonter un petit peu la crise dans laquelle il se trouve. Bon, on sait pourtant que cette situation ne va pas durer très longtemps parce que la maison de commerce Farrell fait faillite en 1848 et donc l'usine ferme, mais les bâtiments sont rachetés par l'État en 1850 et donc l'ancienne abbaye d'Agnan, ancienne filature, devient cette fois vraiment une maison d'arrêt pour adultes. Donc on utilise aussi les anciens ateliers, toujours pour faire travailler les détenus. Mais voilà, Farrell n'est plus dans le paysage. C'est l'État qui possède les lieux et qui en fait donc une prison.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve en difficulté financière? C'est lié à la main-d'œuvre trop chère?
Alors voilà, il y a
au contexte économique.
Il y a cette possibilité-là. Il y a aussi, il me semble, le fait que le coton turc arrive sur le marché européen et vient faire concurrence. Voilà, on est dans les mêmes dynamiques. Bon, pas les mêmes dynamiques qu'aujourd'hui, mais bon, voilà,
ça se reproduit toujours les mêmes.
La concurrence, l'offre et la demande.
Donc oui, là, donc il arrive à avoir une main-d'œuvre bon marché et effectivement, se passent d'autres événements où Farrell, du coup...
Voilà, probablement. Donc, je n'ai pas connaissance de tous ces événements, mais en tout cas, même s'il arrive à se maintenir à flot en utilisant les prisonniers comme ouvriers, au bout d'un moment, voilà, il fait faillite. Et donc, là, on est vraiment désormais dans une prison pour adultes, où on sait que bah, les conditions de détention sont difficiles. Je rappelle qu'on est au milieu du 19e siècle, 1850, voilà. C'est un petit peu compliqué.
Quoi. Donc là, c'est sous la coupelle de l'État. Là. D'un coup, l'abbaye d'Amiens est récupérée par l'État. Et donc, il y a les bagnards qui sont là et qui vivent...
Et qui vivent dans l'abbaye, donc dans des conditions, comme je le disais, un petit peu difficiles. Et on sait, par exemple, qu'en 1854, il y a une épidémie de choléra qui se déclare dans les murs de la prison. Et bah, tout le monde prend peur à l'époque. Les bagnards sont confinés dans les murs de l'abbaye pour éviter que la propagation, enfin que l'épidémie se propage au-delà de la prison. Voilà, apparemment, ils ne sont pas vraiment soignés. Il y a quand même un certain nombre de morts, voire des centaines de morts parmi les prisonniers, puis parmi les membres du village, parce qu'on sait que l'épidémie a fini par se répandre au-delà des murs de la prison. Donc, encore une fois, des épisodes un petit peu difficiles pour ce site. Plein de rebondissements.
Merci Marie Christiani, chargée du patrimoine archéologique de la CCVH. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'abbaye d'Amiens à l'époque de la Révolution, de la fabrique de coton et de la naissance de la maison d'arrêt. Donc n'hésitez pas à écouter en podcast les différents épisodes qui ont été diffusés tout au long de la semaine et retrouver le programme des Journées européennes de l'archéologie lancé par la communauté de communes Vallée de l'Hérault et par l'Office de tourisme Saint-Guilhem le désert valeshérault.fr, et donc ça se tiendra le 19 et le 20 juin à l'abbaye d'Amiens. Donc rendez-vous demain sur les ondes de RPH et de RPH Sud à 8h30 et 12h30 pour découvrir l'avant-dernier épisode, pas très glorieux cette fois,
non.
Sur la prison pour adultes et l'enfermement des mineurs à l'abbaye d'Amiens.
C'est ça.
À très vite.
À bientôt.